Cut free. What?
Fuck you.
Yo.
Cut free. What?
Fuck you.
Radio Campus Orléans, 88.3 FM.
Et bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, donc pour ce nouveau match de la Coupe du Monde et ce nouvel épisode de Piètre Évolution Soccer, votre série consacrée à la Coupe du Monde 2026. On est ensemble donc pour un nouveau match de ce premier tour de ce mondial qui se déroule actuellement en Amérique du Nord, et ce sera donc cette partie entre le Portugal, l'un des principaux prétendants au titre, face à la République démocratique du Congo. Je suis tout seul pour l'instant sur mon canapé, j'espère que notre ami Anas va bientôt me rejoindre parce que là je me sens un petit peu seul pour l'instant. Et comme j'ai pas eu trop le temps de bosser mes sujets sur le football, on fait tellement d'autres choses à Radio Campus Orléans, j'avoue que je me sens pas forcément le plus stable possible sur mes bases pour vous donner la meilleure expertise possible. Je peux vous commenter un petit peu ce que je vois sous les yeux, je peux vous parler un petit peu de la composition d'équipe du Portugal notamment, avec beaucoup de joueurs que nous connaissons très très bien, notamment Paris Saint-Germain, hein, pour celles et ceux qui ont fait la fête le 30 mai dernier. Et de quelques joueurs aussi de cette équipe de République démocratique du Congo, même si bien évidemment là on ne parle pas d'un favori, mais en tout cas elle va jeter toutes ses armes dans la bataille. Le coup d'envoi sur mon écran a été donné depuis exactement 25 secondes, si vous voulez vous caler en tout cas sur ce que nous avons. On devait être une équipe un petit peu plus importante en tout cas pour suivre ce match, mais finalement ça a un petit peu décommandé les uns après les autres. Malgré tout, l'expertise d'Anas va nous être très utile. En attendant que notre ami arrive, je vais pouvoir peut-être faire un petit point rapide sur les résultats qui ont parsemé la nuit, notamment pour celles et ceux qui n'ont pas eu le courage de regarder les matchs durant cette nuit. Et je peux bien vous comprendre, je ne l'ai pas fait non plus. Mais par contre, au niveau des scores, donc rappel quand même du dernier épisode, de l'épisode d'hier de Piètre Évolution Soccer, on avait suivi l'entrée en lice des hommes de Didier Deschamps. Le premier match de cette équipe de France, un remake du premier match qui s'était déroulé lors de la Coupe du Monde de 2002, de sinistre mémoire pour les supporters tricolores qui voyaient pourtant leur équipe à cette époque-là partir comme l'immense favori du trophée après avoir glané successivement les titres de champion du monde en 98 et de champion d'Europe en 2000. Et bien finalement, ce remake, on n'a pas vu les Sénégalais cette fois-ci s'imposer puisque ça a été tout l'inverse, et même une victoire sur le score de 3-1 de la part des tricolores après une première mi-temps extrêmement pauvre en occasion pour les Bleus. C'était les Sénégalais qui ont largement dominé. À la mi-temps, les hommes de Didier Deschamps ont certainement été secoués par leur sélectionneur puisqu'ils sont revenus avec de meilleures intentions et beaucoup plus de dynamisme, et notamment un Michael Olise des grands soirs et un Kylian Mbappé aussi retrouvé, buteur par deux fois, efficace. Michael Olise nommé homme du match, et donc cette victoire sur le score de 3-1, avec notamment une ouverture du score de Bradley Barcola qui était rentré en jeu et qui avait inscrit le premier but à peine une minute après son entrée en jeu. Donc cette victoire là s'est accompagnée d'un autre résultat, puisque dans le même groupe I dans lequel se retrouvent la France et le Sénégal, on trouve aussi l'Irak et la Norvège. La Norvège donc du buteur Erling Haaland qui a très largement vaincu l'Irak sur le score de 4-1, ce qui fait que, à la différence de but pour l'instant, c'est la Norvège qui prend les commandes de ce groupe I, suivi juste derrière de la France. Alors que nous allons suivre en même temps ce match entre le Portugal et la RDC, donc je commente en même temps si je vois que les hostilités s'accélèrent. Le Portugal s'était rapproché de la surface de réparation, la RDC s'est finalement dégagée et une faute permet donc aux joueurs africains de se dégager. Alors que nous avons l'ami Anas qui rentre chez moi, voilà, qui va s'installer tranquillement sur le canapé. Je te laisse t'installer de manière peinarde, je t'allume ton micro, vas-y.
Fais comme chez toi.
Bonjour tout le monde.
De retour sur le canapé. Non, tu n'étais pas sur le canapé la dernière fois. C'était Arthur qui l'occupait.
Exactement.
Voilà. Arthur. Tu te sens privilégié là, cette place-là?
Oui.
Bon, bah, bienvenue à toi en tout cas pour suivre ce match. Ouais, voilà. Tu m'accompagnes, c'est bien parce que là, justement, comme j'ai eu plusieurs personnes qui ont malheureusement décommandé, on va se le faire en intimité, toi et moi. Voilà.
Donc, j'espère que ce sera un bon match déjà.
Bah oui.
Pour en profiter tous les deux. Et bah attention, il y a Cristiano Ronaldo qui a la balle dans la surface.
Ouais, une série de passements de jambes, effectivement. Il s'arrête face à la défense et finalement on recule. Je terminais juste le point sur les résultats donc, de la nuit. J'ai fait le point sur le groupe I de la France, du Sénégal, de l'Irak et de la Norvège. Et dans le groupe J notamment, un gros résultat aussi de l'Argentine avec un Lionel Messi qu'on n'aurait pas imaginé à ce niveau-là, puisque l'Argentine s'est imposée 3-0 avec 3 buts de Lionel Messi qui a l'air d'avoir été particulièrement motivé par la prestation de Mbappé pour la course à celui qui aura marqué le plus de buts toute édition de mondial confondu, n'est-ce pas Anas?
Oui, totalement, il a fait un record incroyable, il a égalisé Miroslav Klose, en plus on en parlait hier pendant l'émission d'hier.
C'est vrai, ouais.
Et on a vu vraiment un match extraordinaire de Lionel Messi, et bon, 39 ans la semaine prochaine qu'il aura.
Incroyable.
Vraiment inattendu pour moi.
Ouais. Et donc 16 buts je crois à son compteur, ou 17
16 buts.
16 buts, ouais. Donc il égalise. Il n'a pas dépassé Miroslav Klose, non, mais il l'a égalisé.
Il égalise à 16 buts.
Ouais, bah, c'est ce qui est déjà assez incroyable. Mbappé qui est à 14 buts lui pour le coup, donc à deux longueurs de retard par rapport à Klose, qui lui ne va plus pouvoir défendre de toute façon son titre, hein, puisqu'il est il est à la retraite, hein, l'ancien buteur de l'Allemagne, spécialiste notamment du jeu de tête, c'était son principal sa principale arme dans la bonne tradition notamment d'autres joueurs qu'on a pu connaître en Allemagne, très pragmatique, à l'image d'Oliver Bier par exemple. Je sais pas si tu as connu ou tu as entendu parler de ce joueur.
Et ben, non.
Un grand attaquant. Attention. Oh alors but, oh. But du Portugal effectivement à la cinquième minute de jeu, et c'est signé João Neves. Ouais, oui. C'est ça, ouais, tout à fait.
Neves, étonnant puisqu'il est il est pas très grand de taille.
Ah oui.
Mais il marque souvent des buts de coup de tête avec PSG et maintenant avec le Portugal du coup.
Bah écoute, ça commence bien tout ça, cette affaire-là. Il a fallu même pas 6 minutes de jeu pour que les Portugais prennent l'avantage très rapidement avec un superbe centre. Je n'ai pas eu le temps de voir l'identité de celui qui a centré ce magnifique ballon, qui a fait en sorte que même un joueur effectivement aussi petit que João Neves, 1m74, puisse reprendre le ballon de manière tout à fait confortable. Et c'est Neto qui a centré sur le côté gauche. Très beau ballon enroulé, effectivement. Alors la tête est superbement bien placée, hein.
On dirait un neuf pur.
Ouais, c'est clair. Ah, incroyable. On ne le savait pas aussi bon de la tête, hein, franchement. Bravo, João Neves.
Je pense que le centre, il était dirigé vers Cristiano.
Ouais. Oui, c'est vrai que oui, c'est forcément la cible la plus attendue de ce genre d'offrande. Mais en même temps, je pense que Neto a véritablement visé quand même João Neves, puisque son centre, il était vraiment déposé, quoi, bien enroulé. Donc, alors après, je sais que oui, on vise peut-être pas forcément une personne, mais on vise plutôt une zone dans ce genre de cas-là.
Exactement.
Donc, oui, effectivement, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que ce soit Cristiano qui reprenne le ballon, mais non, c'est João Neves. On va avoir l'occasion de toute façon de parler de ce joyeux luron, ainsi que de son compère au milieu de terrain, parce qu'il forme certainement ce qui se fait de mieux en termes de paire de milieux de terrain au monde, club et sélection nationale confondues, hein, on aura l'occasion d'en parler à Nas. Je voulais quand même continuer de faire le point effectivement sur ces résultats. Donc la victoire, la très bonne entrée en matière des champions du monde en titre, donc l'Argentine 3-0 avec ce triplé de Lionel Messi qui donne le ton d'entrée, et l'Autriche aussi qui s'est imposée dans ce même groupe J sur le score de 3-1, ce qui fait que l'Argentine mène les hostilités premières du groupe à la différence de but devant les Autrichiens. Et donc dans ce match entre le Portugal et la RDC, on est dans le groupe, que je ne dise pas de bêtises, on est dans le groupe K. Et dans ce groupe K, on va retrouver aussi la Colombie et l'Ouzbékistan également. Ça va être disputé, je pense, pour cette deuxième place. Autant le Portugal est l'immense favori pour prendre la tête de ce groupe, autant je vois quand même que ça sera peut-être un petit peu plus disputé. Peut-être la Colombie en favori.
Oui, je dirais vraiment la Colombie. Il faut faire attention avec cette équipe qui est arrivée en finale de la Coupe d'Amérique contre l'Argentine en 2024. Donc,
ah oui, quand même un sacré beau résultat. Ouais.
Ok.
Pour moi, en tout cas, le match entre le Portugal et la Colombie va être un match très très serré.
Bah effectivement. Et bah faisons le point aussi également sur les places. Alors j'ai pas les classements sous les yeux, mais je peux les déterminer en voyant les scores notamment. Dans le groupe A pour l'instant, c'est le Mexique qui est premier de ce tableau, suivi de la Corée du Sud, de la Tchéquie, puis de l'Afrique du Sud. Dans le groupe B, eh bien c'est statu quo, un partout sur les deux premiers matchs. Donc ce qui fait que le Canada, la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse sont tous quatre à égalité absolument parfaite. Dans le groupe C, c'est l'Écosse pour l'instant qui mène, qui est en tête, suivi du Brésil et du Maroc à égalité, et Haïti en dernière position. Dans le groupe D, c'est les États-Unis pour l'instant qui sont largement en tête grâce à leur très large succès face au Paraguay, l'Australie qui suit derrière, et ensuite donc le Paraguay et la Turquie. En groupe E, nous allons retrouver l'Allemagne qui a explosé le Curaçao, mais ça on pouvait s'y attendre un petit peu vu effectivement on rappelle hein, Curaçao 150 000 habitants seulement, donc je veux dire déjà participer à cette Coupe du Monde, c'est déjà une prestation absolument incroyable de la part de ce tout petit pays. Allemagne première, en deuxième la Côte d'Ivoire, en troisième l'Équateur et en quatrième le Curaçao. Dans le groupe F, on a la Suède qui a largement vaincu la Tunisie sur le score de 5-1. Les Pays-Bas et le Japon sont deuxième ex aequo et en dernier donc cette fameuse Tunisie. Groupe G, nous avons également en tête l'Iran et la Nouvelle-Zélande qui ont fait deux partout, suivi de la Belgique et de l'Égypte, qui ont fait match nul aussi, mais un partout. Donc à la différence de but, en ayant marqué moins de buts, ils sont derrière pour l'instant. Dans le groupe H, eh bien, c'est l'Arabie Saoudite et l'Uruguay qui mènent les hostilités, suivi de l'Espagne et du Cap-Vert. Ces quatre équipes ont fait chacune match nul. Dans le groupe I, c'est évidemment c'est évidemment la France. Non, même pas. La France, donc du coup, est deuxième puisque c'est la Norvège à 20. Vaincu l'Irak 4-1, alors que là on a une très très belle occasion de la part de la République démocratique du Congo avec une frappe à l'entrée de la surface de réparation à rater fusante et qui passe pas loin du tout du poteau portugais. Ouais, à peu près à, on va dire à un bon petit mètre.
Non, il n'y a même pas corner, non.
Non, elle n'est pas détournée, effectivement, ça va faire une remise en jeu au 6 mètres. Voilà donc pour le point complet en tout cas sur les résultats et sur les situations pour l'instant des différents groupes qui ont commencé cette Coupe du Monde. Un petit point aussi sur les compositions d'équipe hein, tout simplement. On va pas vous faire la composition d'équipe exacte du Portugal, c'est pas forcément ce que vous cherchez, mais Anas, on est bien d'accord, la clé de cette équipe du Portugal et de son succès, c'est ce milieu de terrain absolument incroyable entre Vitinha et Neves qui non seulement sont certainement dans le top 3 ou top 4 des meilleurs milieux de terrain individuels, mais en plus de ça qui ont des automatismes qu'aucune autre sélection ne peut se targuer d'avoir puisque ces deux joueurs évoluent dans le même club, à savoir le Paris Saint-Germain, double champion d'Europe en titre. C'est quand même incroyable.
Oui. Et puis Bruno Fernandes aussi qui a été MVP de la Première Ligue cette année.
Manchester United. Hein, c'est... Oui, c'est ça.
Manchester... De la Première Ligue à Manchester United, oui. Ouais. Et qui a fait le record de passes décisives dans une saison en Première Ligue, qui a surpassé Kevin De Bruyne.
Ah oui, l'ancien maître à jouer de Manchester City, belge. Voilà.
Donc oui, vraiment.
C'est pas rien de dépasser Kevin De Bruyne dans cet exercice-là. Hein.
C'est un truc incroyable. Donc voilà ce qu'on disait, c'est un milieu de terrain formidable. Je pense que c'est très compliqué d'avoir un milieu de terrain, déjà de l'égaliser, mais encore l'améliorer, c'est presque impossible en ce moment.
Ouais, tout à fait. Bruno Fernandes, hein, qui est à la fois un joueur reconnu, hein, les spécialistes de football savent à quel point ce joueur est immensément talentueux, mais qui peut être aussi un petit peu sous-estimé, justement parce qu'il est dans cette équipe de Manchester United extrêmement... morose depuis le départ de Sir Alex Ferguson, son illustre manager au début des années 2010. Depuis en fait le départ d'Alex Ferguson, tout va mal dans ce club, ou presque, enfin même si là on remonte un petit peu la pente depuis peut-être quelques saisons et notamment la saison dernière, mais quand même on est très très loin d'être au niveau attendu par rapport notamment à tout l'argent qui est généré dans ce club qui est détenu il me semble par la famille Glazer, hein, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu penses justement de ce joueur Bruno Fernandes? Est-ce qu'il est suffisamment reconnu à sa juste valeur? Et est-ce que selon toi, peut-être, il devrait changer de club?
Ah oui, à mon avis, il devrait changer de club. C'est
attention, je t'interromps juste. République démocratique du Congo, à nouveau une contre-attaque, enfin une récupération de ballon très très rapide dans la moitié de terrain portugaise et une frappe finalement détournée. Et alors j'ai du mal à voir un peu les numéros, c'est le numéro 17 notamment de cette équipe, c'est Cédric Bakambu. Ah, il s'est fait une teinture de cheveux, je ne l'avais pas reconnu avec cette teinture de cheveux.
Oui, c'est Bakambu, buteur de Real Betis de Séville,
ouais.
Qui avait Wan-Bissaka juste à droite, mais qui n'a pas voulu faire la passe.
Alors Bakambu, je crois qu'il a joué au départ à Sochaux, si je ne dis pas de bêtises, avant d'aller...
Sochaux.
Attends, à moins que je me trompe. Centre il a été à Lyon.
Centre de formation alors, ouais. très
connu. De mémoire, attends, je te retrouve ça. Bakambu, ouais, c'est ça, FC Sochaux Montbéliard au début de sa carrière, formé effectivement au FC Sochaux avant après d'aller un petit peu faire quelques gammes à Bursaspor en Turquie, pardon. Ensuite il a joué 3 années de suite à Villarreal et il était quasiment sur un but tous les deux matchs quand même, puisque je vois un peu ses statistiques, 47 buts inscrits en 105 matchs lorsqu'il était à Villarreal. Il a fait ensuite une grosse pige à Pékin en Chine il y a passé 3 ans, là où on pouvait palper de la monnaie à cette époque là
oui.
Et ensuite après il est passé à Marseille pendant une saison où là ça s'est pas bien passé du tout pour lui pour le coup.
Ouais. On rappelle ça après je pense que après avoir fait 3 ans en Chine où le rythme du football il n'est pas du tout pareil qu'en Europe, revenir en Europe directement et reprendre ce rythme européen, c'est très compliqué je pense.
Ouais. Ah bah oui forcément, oui là, surtout en plus dans un environnement comme Marseille qui est sujet à beaucoup de pression, hein. Il y a énormément d'attentes à chaque fois de la part des supporters et c'est très facile de déjouer, il y a des très grands joueurs qui ont déjoué dans cette enceinte du Vélodrome. Mais en tout cas voilà, reste que Cédric Bakambu effectivement. Si vous ne suivez pas vraiment le football, c'est, je pense, l'arme fatale de cette équipe de RDC qui est capable, qui est un vrai buteur pour le coup, un vrai buteur digne de ce nom. Il y a d'autres profils dans cette équipe de RDC qui te semble intéressant à suivre. Moi, je pense à Wan-Bissaka notamment.
Oui, Wan-Bissaka, c'est un joueur de Manchester United et qui en ce moment. Je sais plus où il joue, mais je pense qu'il continue en Première Ligue. Crystal Palace peut-être.
Ah, on va chercher.
Mais
aussi.
C'est normalement c'était une promesse du football quand il était à Manchester United.
Ah ben bah, oui.
Qui c'était c'est un latéral droit pour les gens un arrière droit pardon pour les gens qui le connaissent pas. Et qui aurait pu jouer avec l'Angleterre.
Ouais,
mais
West Ham.
West Ham.
Joue à West Ham actuellement, ouais.
D'accord. Ok. Ouais. Mais c'est un joueur très intéressant, très très intéressant.
Alors attention, offensive portugaise là à ce moment-là, entrée dans la surface de réparation sur le côté gauche. Alors que là, il y a quelqu'un, je ne sais pas exactement si quelqu'un s'est connecté sur mon compte, mais alors je lui demande tout de suite, instamment, de quitter cette place, parce que là, on est en train d'interrompre mon live et non, à un moment donné, je vous le fais suivre. Je reviens quand même sur le match. En général, ça m'arrive des fois de me faire déconnecter 3 ou 4 fois et à force d'insister, je finis par enfin gagner le duel. Alors je ne sais pas du tout parce que en tout cas les personnes avec qui j'avais partagé mon compte me jurent qu'elles ne l'utilisent plus. Ah bah moi je veux bien hein, mais bon là je peux avoir des interruptions. Première interruption en tout cas depuis le début de cette série.
Bah c'est déjà bien, bon dans les autres matchs t'as pas eu d'interruption.
J'en ai eu beaucoup sur la Ligue des Champions notamment cette année. Voilà. Bizarre quand même parce que ça interrompt sur précisément à ces moments-là.
Pendant le match.
Ouais. Je vous vois, hein, celles et ceux avec qui j'ai partagé mes codes. Hein. Tiens, voilà, il recommence. Mais non, mais moi, je vais insister. Hein. Je vais insister, ne t'inquiète pas. Hein. On va pas se laisser faire. Hein.
J'avais une question pour toi, Thomas.
Voilà, vas-y, on va voir.
Est-ce que pour toi, c'est une surprise parce qu'il n'y a pas Ruben Dias qui joue aujourd'hui?
Écoute, j'ai pas assez. Alors, Ruben Dias, rappelle-moi, il joue dans quel club déjà?
Manchester City.
Alors, c'est pas le joueur en fait dont j'ai le plus entendu parler de Manchester City. J'ai pas suffisamment regardé les matchs de Manchester City pour savoir un peu quelle est sa performance. Bah justement, je te retourne la question. Toi, tu penses que c'est pas juste pour lui?
Bah moi, je suis très surpris. Je pensais qu'il allait être le leader de la défense portugaise. Donc je sais pas s'il a peut-être des problèmes physiques ou je sais pas, mais ça m'étonne beaucoup que Renato Veiga joue à sa place.
Ouais.
Donc voilà.
Et lui, Veiga, il joue où, lui?
Villarreal en ce moment.
Villarreal, ouais.
Oui. D'accord. C'est un joueur de Chelsea. Mmh.
Après, des fois, il peut y avoir des choix. Alors, je ne sais pas, hein, je ne connais pas du tout le contexte de cette équipe portugaise. Je n'ai pas regardé les médias portugais. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ça arrive des fois que des sélectionneurs décident de se passer d'un joueur meilleur pour une logique de cohésion d'équipe ou de stratégie. Je sais que par exemple, je crois que Deschamps était très adepte d'avoir dans ses quatre défenseurs centraux deux gauchers et deux droitiers, par exemple. C'était très important pour lui d'avoir ce complément, par exemple. Donc après, ouais, des fois ce sont des choix de sélectionneurs. Eux, ils étudient leurs équipes tous les jours, ils sont au fait. Donc voilà, peut-être il y a certainement des raisons importantes, sauf si il est adepte d'astrologie comme un certain ancien sélectionneur français, hein, qui semblait visiblement se baser beaucoup là-dessus pour établir ses choix d'équipe.
Tu vois, mon regard se dirige. Hein. Tu parles de qui exactement?
Ah bah d'un certain Raymond, quoi, notre ami Raymond, hein. Que tu n'as pas connu, hein. Je t'assure, mon cher ami Anas, tu es beaucoup plus jeune que moi. Moi, j'ai 35 ans, hein. Donc autant te dire que la Coupe du Monde 2010, j'avais 19 ans, j'étais étudiant, bah, sur le campus d'Orléans, précisément. Ça a été un cauchemar, hein. C'était un cauchemar. Et même avant, j'avais 17 ans pendant l'Euro 2018, là où il nous fait sa fameuse dinguerie de la demande en mariage, dont on a parlé, je crois, hier, il me semble. Tu ne peux pas comprendre. C'est pas possible, c'est impossible de le comprendre, ce qu'on a vécu nous les supporters français à ce moment-là, c'était hallucinant, quoi. C'était dinguerie après dinguerie, c'était complètement fou. La communication en conférence de presse avec les journalistes, ça n'allait pas. Alors les journalistes, ils ont clairement leur tort, mais en fait il y a aussi une communication désastreuse de Domenech qui a fait qu'en fait il s'est mis à dos tous les journalistes derrière lui. Et ensuite après, bah, effectivement, ses choix de composition, une manière en fait de diriger ses équipes. Apparemment, il y a tous les joueurs de l'équipe de France qui ont des anecdotes en fait à donner sur sa manière de diriger l'équipe. Je crois que Fabien Barthez, par exemple, disait que l'une des premières fois qu'il l'avait eu en sélectionneur, il avait voulu faire une espèce de atelier théâtral ou quelque chose comme ça avec son équipe. Et là, il a regardé, il disait. Enfin, t'es gentil, quoi, mais nous, on est là pour jouer au foot, quoi. On est là pour jouer au foot et on est là pour s'entraîner, quoi.
Moi, du coup, je découvre ça en ce moment grâce au documentaire qui est sur Netflix avec le témoignage de plusieurs joueurs comme William Gallas, Anelka, Nicolas, ouais. Anelka.
Il y a peut-être Bakary Sagna, je crois.
Bakary Sagna, Patrice Evra, ouais. Oui. Franck Ribéry, je pense aussi.
Ah, il témoigne aussi, ouais. Je ne savais pas
qui
témoignait, ouais.
Je suis pas sûr. Okay. Mais il me semble aussi.
Oh bah, il serait bien placé pour témoigner, hein, mais je suis pas sûr qu'il témoigne.
Et moi du coup, bon, je l'ai pas fini.
Si vous entendez des crunchs, c'est normal, je suis en train de continuer les nachos que Canas nous a amenés. Voilà. Je sais que c'est pas très poli de parler la bouche pleine, mais voilà. On se fait plaisir aussi sur le canapé.
Après c'est normal, on regarde un match de foot quand même.
Bah oui, on se met à l'aise, on est sur le canapé tranquillement. Hey, c'est Piètre Evolution Soccer, hein. Vous attendez pas encore une fois à des expertises, aux expertises les plus poussées. Hein. En tout cas, on est à la 21e minute, 21 minutes et 38 secondes précisément sur mon écran. Donc toujours 1-0 pour le Portugal, bah, effectivement qui va peut-être dérouler tranquillement, mais qui va peut-être pas non plus en faire des caisses pour se préserver parce que la compétition va être longue. Encore plus longue que les autres années, sous une chaleur intense. Hein. Voilà, on connaît aussi ces périodes de vagues de chaleur, donc oui, il va falloir reposer un peu ces organismes.
Oui, totalement. Du coup, maintenant, ils sont à 1-0. Le Congo joue avec un bloc très bas, avec 5 défenseurs, donc ils n'ont pas du tout le besoin de marquer plus de buts ou d'aller attaquer comme des fous. Non, je pense qu'ils vont... jouer tranquillement, mieux avec ces milieux de terrain qui vont contrôler ce match et ce milieu de terrain. Donc voilà, match, je pense, ça va être très dominant de la part des Portugais.
Ouais. Allez, je vous fais comme d'habitude, c'est de tradition, je vous fais les fameuses présentations des deux protagonistes du jour sur le guide de la Coupe du Monde de SoFoot. Alors prenez ça parfois au second ou au troisième degré parce que des fois voilà, ils ont des blagues plus ou moins bien senties. Pour le Portugal, CSAO a beau avoir la colonne vertébrale du PSG champion d'Europe en 2025, un effectif qui dégueule de talent, son projet de jeu reste encore et toujours de tout faire pour que Cristiano Ronaldo crie « Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu de cette prédominance aussi de Ronaldo hier pendant le match. Je continue la présentation donc de SoFoot. Un football de dictateur qui pourrait empêcher le Portugal de montrer au monde tout ce dont il est capable malgré un côté gauche explosif piloté par la paire Nuno Mendes-Pedro Neto. Bref, hormis si Roberto Martinez, leur sélectionneur, retrouve l'entièreté de ses attributs, ça sent les regrets. La Data Room, ils ont choisi ce nombre énorme, 6,1 millions, comme le nombre d'albums vendus par Nelly Furtado aux États-Unis.
Voilà.
La stat qui sert à rien, hein, comme d'habitude. Hein. Et alors pour la République démocratique du Congo, voilà ce qu'il présente. Les léopards ne sont pas la nation la plus spectaculaire du continent africain, mais probablement l'une de celles qui sait le mieux gérer les moments d'un match. Capable de subir sans flancher à la première secousse, les coéquipiers de Cédric Bakambou se régalent en cherchant en profondeur des profils comme Johan Wissa ou Metchak Elia. Si la base du collectif tient bon, la RDC peut enquiquiner quelques cadors. Et effectivement, avec ce nouveau fonctionnement à 48 équipes qui permet de se qualifier pour des 16e de finale, il est clairement permis de rêver pour la RDC pour arriver en 16e de finale. Et pourquoi pas, peut-être essayer d'accrocher un 8e, qui sait, ça serait déjà une très belle performance pour cette équipe. Hein. Et alors la stat aussi, pareil, qui sert, alors c'est zéro comme le nombre de points récoltés jusqu'à présent par la RDC au Mondial. Et la question qui tue, prêt pour le dépucelage? Voilà, donc la présentation pour la RDC. Et la meilleure performance aussi de cette RDC en Coupe du Monde, c'est une phase de poule en 1974. Et pour le Portugal, sa meilleure performance, c'est 3e en 1966, époque d'un certain Eusébio qui a marqué toute une génération, qui était certainement le meilleur joueur ou l'un des tout meilleurs joueurs du monde à cette époque-là dans les années 60. En fait, il a fallu justement attendre Cristiano Ronaldo pour dépasser le mythe Eusébio dans l'histoire collective portugaise.
Après, bon, moi, je n'ai pas connu l'époque d'Eusébio, évidemment, parce que je suis quelqu'un qui est né dans les années 2000.
Alors, je te rassure, moi non plus, je ne l'ai pas connu. Hein.
Moi non plus.
Ça serait inquiétant si je l'avais connu. Moi, je commence à me poser des questions sur mon espérance de vie, là.
Moi, j'ai juste entendu parler de lui sur FIFA, puisqu'il a une carte légende.
Oui.
Et puis par les supporters du Benfica. Parce que c'est une légende du Benfica.
Ah, il a fait 15 années de carrière là-bas.
Voilà.
Il est passé par plein d'autres clubs, mais il a fait quand même 15 saisons là-bas.
Il a gagné la Coupe d'Europe avec le Benfica.
Alors il me semble, je vais vérifier son palmarès justement. Palmarès avec Benfica, une Coupe d'Europe des clubs champions. Ouais, à l'époque on l'appelait pas la Ligue des Champions, on l'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions en 1962. 11 titres de champion du Portugal, 5 Coupes du Portugal notamment. Et il a aussi été finaliste de la C1, donc de la Coupe d'Europe des clubs champions, à 3 reprises supplémentaire. C'est-à-dire en fait il a été 4 fois finaliste et une fois vainqueur, notamment sur ses prestations. Et Eusébio, effectivement, qui est reconnu notamment comme l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire, il était notamment surnommé la Panthère Noire ou encore le Roi. On connaît le surnom du Roi pour Pelé, mais au Portugal aussi ils ont leur Roi. Voilà. Et notamment durant la 3e place à la Coupe du Monde de 1966, il faut souligner sa prestation incroyable. Il a terminé meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 9 buts.
9 buts
inscrits en une Coupe du Monde. Alors bon. Voilà, le record absolu, on l'avait rappelé hier, c'est juste Fontaine avec 13 buts. Mais 9 buts dans une Coupe du Monde, ça pèse quand même lourd dans le game. Hein.
C'est ce que j'allais dire. Après avoir entendu hier pour la première fois que Juste Fontaine il avait marqué 13 buts dans une édition de Coupe du Monde. Du coup, il n'y a plus rien qui m'étonne en ce moment.
Mais regarde, de toute façon, ces stats, ce sont des stats de but à la Messi ou à la Cristiano. Sur toute sa carrière, il a disputé en club 575 matchs pour 584 buts. Donc c'est-à-dire plus d'un but par match inscrit dans sa carrière en club. Alors que là, le Portugal a une nouvelle occasion, un centre finalement détourné par la défense de la RDC, la défense congolaise, je vais y arriver. Ça part beaucoup du côté gauche de Neto. Hein.
Oui.
Toutes les actions, elles partent de ce côté gauche.
Il me semblait qu'il y avait hors-jeu, mais je pense que finalement non.
Ouais, j'ai l'impression qu'il est couvert. Ouais.
Pedro Neto, ça m'étonne pas que le ballon de la part des Portugais passe surtout par là-bas, parce que c'est un joueur très très rapide. Malgré à droite, sur le côté droit, il y a Cancelo et Bernardo Silva, qui sont des joueurs pas hyper rapides comme Nuno Mendes ou Pedro Neto.
Cancelo, il commence à se faire un petit peu plus âgé. Hein. On l'a connu comme. D'ailleurs, ce Cancelo, on l'a connu, il est droitier à la base. Mais il a beaucoup joué aussi dans sa carrière comme latéral gauche, repiquant dans l'axe, qui était un petit peu une nouvelle sorte de latéral. Un petit peu playmaker, un petit peu. De la même manière, je vous avais parlé d'un manga que je suis beaucoup, Awashi, où on a un protagoniste qui est latéral gauche et qui est droitier et qui va justement inaugurer un nouveau genre de défenseur aussi bon en attaque qu'en défense et playmaker qui voit tout avant les autres et qui donne aussi, au-delà de jouer par lui-même, il va aussi se donner des instructions de placement à ses coéquipiers notamment. Alors je ne suis pas en train de dire que Cancelo c'est le même profil que ce joueur très atypique Ashito que nous voyons dans ce manga, mais c'est vrai que Cancelo a été vraiment, enfin c'est une espèce de latéral extrêmement rare et particulièrement précurseur notamment. Mais là il joue sur le côté droit pour cette compétition.
Il a commencé à jouer sur le côté gauche, si je ne me trompe pas, au Manchester City avec Guardiola. Et puis actuellement il joue au Barça et il joue dans cette position là puisque dans le côté droit il y a Jules Koundé, joueur français qui a joué hier. Donc voilà, latéral oui, très très offensif, qui attaque beaucoup et qui même en défense du coup il loupe pas du tout.
Ouais, tout à fait. Alors je regarde quand même sur la composition, parce qu'on parlait de Neto latéral gauche, il semblerait qu'il soit plutôt milieu ailier gauche quoi sur cette action, parce que il y a Nuno Mendes en fait.
Oui. Exactement.
Sur le latéral gauche, Nuno Mendes. En fait, on a trois Parisiens dans cette équipe, hein. Nuno Mendes, Vitinha et João Neves. Oui.
Et sur le banc, Gonçalo Ramos.
Et Gonçalo Ramos, effectivement, tout à fait, avant-centre, qui est aussi remplaçant au Paris Saint-Germain. Peut-être un super sub, effectivement, pour cette équipe portugaise. Quand je parle de super sub, en fait, j'ai des traumatismes. C'est le but d'Eder en 2016.
Le but d'Eder.
Le fameux
l'Euro. Eder qui, je sais pas si tu as des nouvelles de lui, parce que pas moi.
Non, moi non plus, non, j'avoue. Il s'était relancé au LOSC, justement, mon club de cœur. Oui. Et on a cette réputation de relancer parfois des joueurs. Là, on l'a tellement relancé que du coup, il nous a marqué ce but qui nous a empêché d'être champion d'Europe en 2016. Cristiano Ronaldo avait été remplacé au début du match à cause d'une blessure. Et il avait passé toute la rencontre à encourager comme un fou ses coéquipiers. C'était presque lui le deuxième entraîneur de l'équipe à ce moment-là. Est-ce que c'est pas lui le deuxième entraîneur de l'équipe là actuellement? Parlons peut-être du cas Ronaldo justement là maintenant, c'est peut-être le bon moment.
Oui, totalement. On pourrait dire qu'il est deuxième entraîneur, même si il est capitaine, mais Ronaldo a 40 ans, il joue sa 5e Coupe du Monde, c'est un truc incroyable. Donc Ronaldo, je sais pas ce que tu en penses toi du fait qu'il soit titulaire encore à 40 ans.
J'ai un peu de mal pour le coup, parce que il joue à Al Nasser, avec tout le respect que j'ai pour le championnat saoudien, c'est quand même pas le top niveau. Et d'ailleurs, si à 40 ans il arrive encore à aligner des stats comme 129 buts en 148 matchs, moi désolé, mais je m'interroge un peu sur le niveau du championnat. Alors je sais bien, attention, on a l'exemple LeBron James qui performe toujours en NBA, mais par contre son équipe malgré tout a été sortie dès le premier tour des playoffs. Il n'a pas pu vraiment faire de différence. On est quand même limité. Mais après, en basket, c'est différent du football. En basket, c'est du 5 contre 5. LeBron peut vraiment peser, faire des choses intéressantes. Mais en football, pour le coup, là où y a le jeu doit être à tout intérêt à être collectif, à se partager entre différents joueurs, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain, ce Cristiano Ronaldo, effectivement, j'ai l'impression, comme l'analyste de SoFoot le disait tout à l'heure, je pense qu'il vampirise un petit peu le jeu collectif de cette équipe qui pourrait être absolument exceptionnelle avec ses 2 mètres à jouer au milieu de terrain. Donc moi je suis pas fan de voir Cristiano Ronaldo une nouvelle fois dans cette équipe, pour le coup. Je suis pas sûr qu'il apporte grand-chose. Voilà.
Bah, pour rappel, dans la dernière Coupe du Monde, il avait été remplaçant en quart de finale contre le Maroc et dans plusieurs matchs. C'était la Coupe du Monde qui a fait de Gonçalo Ramos la révélation du Portugal, où il marquait un triplé. Je ne sais plus si c'était à la Suisse, je ne sais plus.
Ouais. Mais après, bon, Cristiano Ronaldo, attention, un très beau contrôle de balle pour la RDC, une avancée et une tentative de frappe de à peu près 25 mètres et qui finit finalement dans les gants de Costa, le gardien de but portugais, tranquillement. C'était une frappe tentée par Kayembe. Et oui, il ne s'agit pas de dénigrer aussi l'apport que Cristiano Ronaldo a amené au football aussi, hein, évidemment, hein, parce que joueur exceptionnel, un joueur aussi, moi je reconnais une chose, c'est que Cristiano Ronaldo, il a su évoluer. Il a su notamment évoluer dans sa jeunesse, c'est-à-dire que moi je me souviens, première fois où je vois Cristiano Ronaldo dans une compétition, Euro 2004, à l'époque, il a sa boucle d'oreille, il est tout maigrichon. Et je vois un joueur diablement technique, mais par contre, qui fait que des trucs et des gestes inutiles. Je le vois en fait faire 50 000 passements de jambes arrêtés. Ça ne sert strictement à rien, c'était juste pour amuser la galerie. Et pendant cette période-là, donc Euro 2004, et un petit peu moins, mais c'était quand même le cas en 2006 pendant la Coupe du Monde, je vois un joueur qui est extrêmement frustrant.
Du coup, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je me suis trompé. C'est pas la 5e Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, c'est la 6e.
La 6e, ouais, ouais, ouais.
Merci Julien qui vient de me corriger en direct.
T'as tes fact-checkers.
Oui, exactement. Dédicace à mon ami Julien qui
te reprennent de voler. Qui vous écoute de Montpellier. Bah, bonjour
oui,
Julien.
Hein.
Ouais, merci à toi. Voilà. Effectivement. Comme tu peux le constater, ici, c'est pas non plus le meilleur de l'expertise footballistique que tu vas retrouver. Hein. Ici, c'est plutôt la bonne ambiance, l'ambiance canapé, pépère, tranquille, à suivre un match et à essayer de profiter du beautiful game, mais tout en restant aussi lucide sur les conditions d'organisation de cette Coupe du Monde qui sont assez particulières, on va dire. D'ailleurs, petite dédicace à ce Donald Trump hein, qui est actuellement au G7 et qui se permet d'arriver une heure en retard par rapport à tous les autres chefs d'État. Et sa seule excuse, c'est qu'il se tourne vers les caméras et il dit « I'm the boss ». Voilà, tout un condensé de son égocentrisme. Non, bien évidemment que non. Mais bon,
on est habitué à ce genre de choses.
Idiocratie, voilà. Idiocratie, cette fois-ci, ce n'est plus un film, c'est la réalité. La réalité dépasse toute la fiction. Voilà. J'en profite aussi, on est à la 35e minute, hein, toujours 1-0 de la part du Portugal, hein, qui a quand même un peu ralenti la cadence. Comme je disais, c'est pas la même mentalité que l'Allemagne, par exemple, qui, si elle en a l'occasion, c'est le rouleau compresseur et elle humiliera son adversaire si elle le peut. Là, ici, on est sur une autre vision des choses. L'occasion pour moi quand même de revenir sur les traditionnels classements de cette série Piètre Évolution Soccer. Alors j'en rajoute un, là j'avais pas commencé le classement notamment FIFA des nations. Pour vous indiquer notamment que le Portugal est classé à la 5e position de ce classement, ce qui est révélateur en fin de compte des favoris hein, que l'on voit. Alors même si l'Argentine, on ne l'a pas forcément placée dans le premier chapeau des favoris, mais elle reste numéro 1 quand même du classement FIFA. Alors c'est sûr, avoir gagné la Coupe du Monde il y a 4 ans notamment, ça aide hein, pour les points FIFA. Mais voilà, le Portugal donc dans les 5 premiers de ce classement FIFA, donc nation évidemment à surveiller de très très près. Et alors pour la République démocratique du Congo, on va la retrouver, je vais regarder sur le classement, on va la retrouver à la 48e place. Voilà. Voilà, nation qui fait pas figure d'outsider, parce que les outsiders, je les classerais plutôt dans les 15e, 20e place à peu près. Mais en tout cas, nation qui peut aller embêter certaines équipes.
Oui, voilà. Oui, une équipe très très physique, avec un bloc bas, avec 5 défenseurs. Bon, c'est la même composition qu'ils ont eu pendant la CAN, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, en début d'année, en janvier. Et je pense en fait, c'est une équipe qui est très défensive, mais qui, qu'il manque encore de joueurs offensifs qui peuvent faire la différence, comme je sais pas, comme le Maroc à Brahim Diaz, comme l'Algérie à Riyad Mahrez. Il leur manque ce joueur. Attention, le Portugal, Mendes.
Belle action du Portugal là, sur le côté gauche, effectivement. Un ballon qui a réussi à trouver de l'espace. Finalement, c'est contré par la défense de la RDC. On essaye de se dégager tant qu'on peut, mais on se dégage même pas, puisque là, c'est une récupération très très haute de la part de João Neves dès l'entrée de la surface de réparation, ce qui va permettre au Portugal d'essayer de tenter du jeu placé à nouveau, un peu en mode handball. On fait tourner le ballon pour essayer de trouver la brèche dans la défense adverse. Mais en tout cas, ouais, ce pressing portugais, il n'est pas mis à chaque fois. Il est mis vraiment à certains instants vraiment très clés, quand on sent que le ballon est très près de la surface de réparation. Alors que là, on a eu une tentative de frappe de loin qui a été contrée. Et là, on essaye de se projeter très rapidement en avant pour les joueurs du Congo, de la RDC. Mais bon repli défensif de la part du Portugal. Et je ne suis pas sûr aussi que les joueurs congolais aient joué ce contre de la meilleure des manières possibles aussi. Hein. Donc il y a un petit peu des deux. Hein. Malgré tout, on va quand même tenter un centre, bon, un petit peu laborieux côté gauche, qui ne trouve évidemment personne. Et là, ça repart tellement tranquillement qu'on est en train de marcher pour l'instant. ballon au pied.
Oui, totalement. Bah, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, cette équipe du Congo manque de créativité, il me semble. Ils n'ont pas des joueurs créatifs, des 10 ou des milieux qui peuvent diriger ce milieu de terrain. Donc voilà, ils peuvent s'appuyer sur la défense et sur les contres. Bon, ils ont des joueurs rapides quand même, comme Wan-Bissaka, duquel on parlait tout à l'heure.
Bien sûr.
Mais il leur manque un peu de magie, de créativité dans le jeu.
Moi, je veux souligner quand même aussi, y a certains joueurs assez intéressants quand même qui sont là-dedans, en tout cas qui sont dans des clubs intéressants. Je pense à Masuaku notamment, qui est à Lens. Dans la même région française, mais cette fois-ci à Lille, il y a Mouko aussi. Joueur assez talentueux à suivre notamment. On a aussi Wissa notamment qui joue à Newcastle. Donc il y a quand même des joueurs qui sont référencés dans des dans des bons clubs européens quand même. Hein, voilà. Voilà une équipe quand même intéressante à suivre pour la suite. Je pense pas qu'ils vont créer la surprise contre le Portugal, hein, vu la manière dont ça a commencé, alors que là on a une tentative de transversale qui finalement ne donne rien. C'est bien suivi par la défense congolaise, et malgré tout on fait le pressing pour les obliger à se dégager en touche et ainsi pouvoir récupérer le ballon très haut encore une fois dans leur camp. Voilà, et alors donc je vous ai fait le point classement FIFA. Place désormais à un autre classement dont là vous n'avez clairement pas l'habitude dans les séries sport et dans les commentaires sportifs, les commentaires de football. C'est notre classement Reporters sans frontières. Oui, parce qu'à Radio Campus Orléans, on défend le journalisme, on défend le journalisme libre, on défend justement la liberté des médias. Et ce classement de Reporters sans frontières est un outil que moi personnellement j'utilise beaucoup en éducation aux médias lorsque je suis avec des publics scolaires notamment. C'est un classement qui est très très facile à comprendre et qui permet rapidement de visualiser l'état de la liberté de la presse dans chaque pays. C'est très très bien, vraiment. Je vous encourage à aller faire un tour sur le site de rsf.org, donc le site de Reporters sans frontières. Vous pouvez trouver très rapidement cette carte. Vous pouvez taper aussi le nom du pays qui vous intéresse. Vous pouvez aussi le trouver dans une liste déroulante. Et vous avez non seulement le classement, mais aussi surtout une explication très détaillée du classement de ces pays qui suit notamment plusieurs indicateurs très précis, tels que des indicateurs politiques, économiques, légaux, sociaux et sécuritaires. Je sais, ça n'a rien à voir avec le football, mais malgré tout, je vais quand même défendre cela, parce qu'on est sur cette série Piètre Évolution Soccer pour parler également d'aspects parfois sociaux ou politiques, liés au football, liés au pays que nous allons commenter, ou liés aussi à l'Amérique du Nord et notamment aux États-Unis de Donald Trump. Après tout, c'est une Coupe du Monde qu'il a imaginée à sa gloire, et il ne veut que l'on ne pense que au foot et surtout aux publicités, hein, au business. Eh bien, nous, on veut aussi penser justement aux aspects sociaux et politiques également. Donc, c'est le but aussi de cette série. Alors, du coup, qu'en est-il du classement de la liberté de la presse pour les pays ? Eh bien, le Portugal est largement mieux classé que la France. Voilà. Mm-hmm. Ça vous étonne peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, mais non, le Portugal justement fait figure de pays que l'on peut vraiment créditer pour sa défense de la liberté de la presse. Donc dans la petite description, je vous lis juste le petit chapeau, c'est quelques lignes de description. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, eh bien, vous pouvez aller sur le site de Reporters sans frontières pour voir toute la description. Donc Reporters sans frontières indique que la liberté de la presse est solide au Portugal. Les journalistes peuvent mener leurs reportages sans restriction, mis à part lors d'incidents perpétrés par des supporters de football ou des militants d'extrême droite. Voilà pour le classement donc, du Portugal. Et alors pour la République démocratique du Congo, on est très très mal classé cette fois-ci. On est seulement à la 130e place. Donc là, c'est-à-dire que là, on fait vraiment partie des pays dans lesquels exercer le journalisme est très risqué. Reporters sans frontières indique que le pluralisme des médias est réel dans le pays. Mais dans les provinces uniquement du sud et du nord Kivu, le secteur est fortement affecté par le conflit entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Ces derniers, depuis la prise de Goma, exercent un contrôle croissant de l'information en ciblant les médias locaux. Par contre, il y a aussi cette fameuse statistique, le baromètre notamment des journalistes détenus et tués. Aucun journaliste ou collaborateur de médias n'a été tué ou détenu depuis le 1er janvier 2026 en République démocratique du Congo. Et c'est aussi le cas, je vais quand même vérifier parce que je n'avais pas regardé pour le Portugal, mais on imagine que si le Portugal est classé 10e, ce baromètre ne doit pas non plus dépasser le zéro, et c'est le cas, effectivement. Voilà, c'était le petit point RSF comme on en a l'habitude sur cette série. 43e minute et 38 secondes à mon écran, toujours 1-0 pour le Portugal. Peut-être un peu, qu'est-ce que tu en penses là globalement de ce match, de ce que tu en vois, surpris, ou est-ce que tu t'attendais un petit peu à ce résultat et à cette physionomie de match?
Franchement, pas très surpris. Je m'attendais vraiment à un match comme ça, avec le Congo, avec un bloc bas très très défensif, et le Portugal du coup a dominé le match, essayé de dépasser cette défense, mais évidemment c'est très compliqué. Ils ont 5 défenseurs très physiques, très rapides. Et très très bon, déjà le capitaine Mbemba qui joue à l'OM normalement, non?
Alors attends, Mbemba il a changé je crois, il joue à Olosk.
Olosk, ouais. D'accord.
Je suis supporter de l'équipe, mais en fait j'ai vu quasiment aucun match cette saison du LOSC par manque de temps et par le fait aussi que malheureusement la plupart des matchs de Ligue 1 aujourd'hui sont sur une plateforme dédiée exclusivement à la Ligue 1 et que j'ai pas envie de payer moi juste pour voir de la Ligue 1. Je suis désolé, mais voilà, je suis pas mazo. Je plaisante bien sûr pour les fans de Ligue 1, mais voilà, ouais, faut faire des choix à un moment donné parce que on va peut-être aussi en parler. Je vais te lancer sur une question précise par rapport à cela, mais ouais, tu parlais de Mbemba justement, capitaine de cette équipe.
Oui, capitaine qui dirige cette équipe en défense et un joueur très très défensif et qui joue très bien son rôle. On l'a vu à la CAN, il avait fait un très bon parcours. Bon, ils ont été éliminés, je ne sais plus par quelle équipe, je pense par le Nigeria, si je ne me trompe pas.
Je vais fact-checker juste après mon nachos.
Les nachos, on ne va pas dire la
marque. Il y a des priorités dans la vie, voilà.
Mais voilà, ce joueur Mbemba qui m'a surpris pendant la Coupe d'Afrique de 2026.
Attends, on va regarder ça tout de suite. CAN 2026, hein. Hop, pour voir un peu quel parcours a fait cette équipe de la RDC à ce moment-là. Je vais regarder ça. Pendant ce temps-là, on est entré dans le temps additionnel. Il reste 3 minutes à jouer jusqu'à la pause musicale. Après, on va s'écouter une sélection de titres venus de la RDC parce que c'est un magnifique pays de musique. Viviane m'expliquait, notre chargée d'antenne et des programmes, qui a composé toute la sélection musicale du Piètre Evolution Soccer, m'expliquait ce matin que la RDC est très très souvent précurseur en matière de tendance musicale notamment. C'est vraiment une terre fertile pour la création musicale. Il y a vraiment toute une culture incroyable et des sons de très très grande qualité. Et donc justement, nous allons vous proposer quelques exemples du meilleur de cette musique justement congolaise. Alors que la RDC, effectivement, pour confirmer, a été éliminée par l'Algérie en huitième de finale de, cette, de la dernière CAN. Oui. Ouais, tout à fait.
C'est vrai. Oui, parce que
1-0 après prolongation.
C'est vrai que l'Algérie joue contre le Nigeria en quart de finale. Et puis le Nigeria a éliminé l'Algérie pour affronter le Maroc en demi-finale.
Ouais, c'est ça. Et donc ce fameux match dont on avait parlé hier à l'occasion de France-Sénégal, bah effectivement, qui est le vrai champion d'Afrique c'est une... Même toi, Marocain, t'admets que ça aurait pu encore une fois être décidé le jour même, mais pas plusieurs mois après, quoi. C'est pas possible.
Non. C'est ce que je disais hier, du coup. C'était à l'arbitre de prendre cette décision.
Et si l'arbitre a signé la feuille de match. Oh, alors que là, on avait une tentative. Alors je sais pas, le jeu s'était arrêté ou non. Là, c'est vraiment un tir qui
je
est passé
pense
pas
que
loin.
C'était un tir et il me semblait que la balle allait rentrer.
Ouais, un tir congolais effectivement, qui pouvait se montrer un petit peu dangereux. On va revoir le ralenti quand même.
Il y a faute. Il me semble.
Bernardo Silva, ouais, voilà. Ah, c'est pour ça. Donc en fait, ouais, quand le tir a été fait, l'arbitre avait déjà sifflé la faute sur le milieu de terrain portugais. Ah, non, il y a pas de faute.
La
balle a été détournée, ouais. Et donc du coup, ça donne corner pour la République démocratique du Congo. Il reste une minute à jouer sur cette première mi-temps. Et peut-être éventuellement l'occasion, pourquoi pas, de profiter de la grande taille, notamment des défenseurs congolais, pour essayer d'égaliser sur cette phase de jeu arrêtée. Le corner qui était tiré au premier poteau, mais qui a été détourné. On repasse sur le côté droit avec une tentative de centre, mais c'est bien défendu. Et en fin de compte, on redonne un corner de l'autre côté, alors que justement, le joueur qui a centré ce ballon, à savoir Mbemba, justement, le capitaine de cette équipe, s'est pris un coup.
Oui,
ouais. Et alors moi justement j'avais une question à te poser c'était ce que je voulais dire juste après quand on parlait notamment du fait d'aller de regarder les matchs et je disais justement que je regardais pas la Ligue 1 parce qu'à un moment donné il faut faire des choix. Tu n'as connu que ça en fin de compte dans le football saucissonné déjà, découpé en plusieurs morceaux et partagé par de très nombreuses chaînes auxquelles tu dois être obligé de t'abonner, de payer un abonnement pour regarder le foot. Enfin, à ton époque, à la fois c'est très facile de voir du foot parce qu'aujourd'hui on a internet, mais paradoxalement c'est aussi très compliqué de voir tout le foot. Qu'est-ce que t'en penses toi, Anas?
Moi en vrai, j'ai connu l'époque où le foot était gratuit. J'ai connu... j'ai commencé à regarder le foot en 2008 quand j'avais 8 ans,
ouais.
7 ans pardon.
Et ouais, c'était pas encore arrivé vraiment à ce moment-là. Ouais.
C'était une époque où, par exemple, les matchs de la Liga espagnole étaient diffusés en direct dans.
Ouh, magnifique but. Centre, magnifique centre et égalisation juste
du
avant, juste avant la mi-temps. Égalisation de Wissa sur cette toute dernière minute de la première mi-temps. Waouh ! Alors ça, on s'y attendait pas vraiment hein, pour le coup, parce que le Portugal avait globalement dominé les hostilités. Et alors ce centre, je vois un peu qui a centré ce ballon. En fait, c'est un ballon un peu justement intérieur, c'est-à-dire que c'est un ballon centré du pied gauche, alors que le centreur était placé côté droit, ce qui a permis en fait justement de donner une trajectoire vraiment rentrante et très très dangereuse que Wissa a repris, a prolongé en fin de compte de sa tête, tête puissante, imparable. Et donc, à la surprise générale, la RDC qui égalise alors que Joao Neves notamment et Vitinha sont en train de protester auprès de l'arbitre. Je me demande bien ce qui s'est passé, on verra peut-être le ralenti. En tout cas, ils se plaignent d'un hors-jeu. En tout cas, il n'y a pas de faute dans la surface de réparation. Aucun problème.
Non, c'est but légal totalement.
Le but est magnifique. Hein. Le centre est vraiment très très beau.
Et Johan Wissa qui est tout seul, il n'y a aucun défenseur qui est à côté de lui, il prend la balle tout seul.
Ouais, non mais c'est
surprenant.
C'est très surprenant. Peut-être un petit peu de trop de confiance en eux à la sortie. Cette espèce un peu de décompression, de se dire c'est bon, on a ouvert le score dès la cinquième minute, on est tranquille, on est favori, puis du coup on se relâche peut-être inconsciemment un peu avant la mi-temps. Ça a de quoi donner quand même un bon coup sur la tête aux Portugais.
Oui.
Même si les Portugais restent favoris. Hein.
Ouais. En plus, à la fin de la première mi-temps, franchement, c'est un coup. Ça va être dur pour eux pendant la mi-temps de ressortir après la deuxième mi-temps après ça. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, c'est ça les armes de la République démocratique du Congo.
C'est ça.
Des joueurs physiques, des joueurs grands en taille. Et voilà.
Et voilà, et ça donne du coup cette égalisation effectivement à la dernière minute de la première mi-temps. Et bien c'est la pause, hein. Donc un partout entre ces deux équipes. Et juste avant de vous laisser avec une petite sélection musicale, revenir quand même rapidement sur le parcours de ce buteur Johan Wissa. Pour constater notamment, ça je ne le savais pas, qu'il a été fermé dans la région Centre-Val de Loire, à Châteauroux.
Étonnant ça.
Voilà. Donc, la Berrichonne de Châteauroux, voilà, il a été formé, son parcours junior notamment s'est arrêté en 2015 et ensuite après il a joué une saison à la Berrichonne avant ensuite après de partir à Angers. Lorsqu'il a été à Angers, il a très peu joué, il n'a joué que deux matchs et il a été prêté notamment à Laval et à Ajaccio. Et puis ensuite il a joué trois saisons, c'est là qu'il a vraiment explosé, il a explosé à Lorient notamment, il a joué 128 matchs pour 37 buts. Et ensuite il est parti en 2021 à Brentford, là aussi où pareil il cartonne pas mal quand même. Avec presque 50 buts en 150 matchs, donc ça fait un but tous les 3 matchs. Et depuis la saison dernière, donc il a rejoint le club de Newcastle qui nourrit beaucoup d'ambition à moyen terme, notamment dans ce championnat anglais qui a été racheté il y a quelques temps par de nouveaux investisseurs et qui notamment essaye de s'installer dans les tout meilleurs clubs de la Première Ligue. Il en est à 29 ans, il est à 40 sélections dans cette équipe du Congo. Et voilà, donc je crois à mon avis qu'il vient d'inscrire son 10e but, puisqu'il en était à 9 avant, donc il vient d'inscrire son 10e but en sélection. Voilà.
Il faut dire aussi que c'est un joueur qui n'est pas très grand de taille, il mesure 1m76. Donc étonnant qu'il soit tout seul dans la surface en cas de défenseur.
Ah mais c'est les petits règnent dans les airs en ce moment parce que entre Joao Neves et lui, ouais, c'est ça. Là c'est 1m74 et 1m76 effectivement. Là les petits ont décidé de dire aux grands, nous aussi on a notre place dans les airs. Et ils viennent de le prouver de très fort belle manière au cours de cette rencontre. Allez, on va se faire une petite pause avec donc quelques sélections musicales congolaises proposées par notre amie Viviane, que j'embrasse très chaleureusement pour toute cette programmation musicale qu'elle nous a concoctée pour cette série Piètre Évolution Soccer. On revient donc dans une dizaine de minutes sur le 88.3 FM Radio Campus Orléans. A tout de suite.
Oyakota la mbongo bakobala yo miyo dai mbongo mbongo oyakota la mbongo bakobala yo miyo dai mbongo mbongo